midi 30 temps universel, 13h30 à Paris et Kinshasa. Afrique Midi, c'est avec vous, Simon Bourtembourg, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Kinshasa enverra bien une délégation mardi à Luanda. C'est en tout cas ce que dit ce matin une source gouvernementale congolaise à RFI. La semaine prochaine s'annonce donc décisive. Le président angolais a lui appelé à une trêve dans l'Est congolais et ce dès aujourd'hui. Nous faisons le point dès le début de cette édition. À la une également, la réaction du gouvernement burkinabé. Depuis le début de la semaine, des vidéos particulières choquante circule sur internet. On y voit des exactions de civils dans la région de Solenzo, des exactions imputées à des membres des VDP. L'exécutif parle lui d'une vaste campagne de désinformation. Au Bénin, les réseaux sociaux s'enflamment après les déclarations de Patrice Talon à Jeune Afrique. Le chef de l'État, nous le verrons, a répété qu'il ne serait pas candidat à sa réélection en 2026. Dans cette édition également, reportage à Yaoundé, au Cameroun, où des dizaines d'églises sont fermées depuis 2 semaines. Et puis, l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, bientôt utilisée pour tous les matchs de football sur le continent. On en parle en fin d'édition. Une semaine cruciale sur le dossier de l'Est congolais. La RDC et le mouvement armé M23 sont invités pour des discussions mardi à Luanda en Angola. L'Angola, qui par l'intermédiaire de son président, a appelé à un cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo et ce dès aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes en direct de Kinshasa avec vous. Paulina Zidi, bonjour.
Bonjour.
Paulina, mardi, la RDC participera donc aux discussions de Luanda.
Oui, hein, tout à fait. Selon une source gouvernementale, Kinshasa enverra bien une délégation à Luanda. En revanche, pas d'informations encore sur le format et le niveau de cette délégation. Un envoyé spécial de Félix Tshisekedi a été reçu vendredi par le président angolais. Il lui a transmis une communication du chef de l'État congolais, un message dont on ne sait pas encore la teneur, mais la RDC tient à préciser qu'elle a toujours répondu positivement aux initiatives régionales. Côté M23, la lettre d'invitation a été envoyée à Bertrand Bissimwa, chef de la branche politique du mouvement. Selon plusieurs sources proches du dossier, le groupe armé serait en attente de garanties sécuritaires avant de répondre formellement.
Des discussions qui doivent avoir lieu alors que depuis minuit ce dimanche, un cessez-le-feu est donc en cours en RDC. C'est la médiation angolaise qui en a fait l'annonce hier matin. Est-ce que ce cessez-le-feu est respecté ?
Alors, difficile de l'assurer hein, dès ce matin, dès la mi-journée. Au contraire, des informations qui nous reviennent font état de combats ou de bombardements vers le Masisi, Walikale et Minembwe. Hier, la situation était encore tendue sur les lignes de front au nord et au sud Kivu. Mais les deux parties ont en tous les cas pris acte de cette demande de trêve. Côté congolais, on rappelle que les autorités respectent leurs engagements mais doivent protéger les populations en cas d'agression, alors que la FCM 23 affirme respecter le cessez-le-feu depuis mars 2024, se défendant de ne réagir qu'en cas d'attaque, une version qui est contestée par les autorités de Kinshasa.
Et Paulina, d'autres rendez-vous importants sont attendus cette semaine.
Oui, tout à fait. Deux réunions lundi qui peuvent avoir un impact sur la situation dans la région. La première à Harare, au Zimbabwe, ce sont les ministres des Affaires étrangères des régions d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est qui doivent se retrouver pour travailler sur le document établi en février par les chefs des armées des pays des deux régions. Plusieurs aspects vont être abordés, le cessez-le-feu bien évidemment, les mécanismes pour monitorer cette trêve, mais il y a aussi l'avenir militaire de la région. Les chefs d'état-major suggèrent un renforcement du mandat de la MONUSCO, la mission de l'ONU, pour qu'elle sécurise le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et à plus long terme, se pose la question de l'accompagnement du gouvernement de la RDC pour la sécurisation de Goma, Bukavu et leurs environs. La deuxième réunion à Bruxelles, c'est un conseil de l'Union européenne qui doit décider de sanctions dans ce dossier, en ligne de mire des responsables rwandais.
Paulina Zidi, merci à vous. Et sans évoquer spécifiquement ce risque de sanctions de l'Union européenne, Paul Kagame, qui était en meeting ce matin à Kigali, s'en est pris à la communauté international dénonçant les différentes mesures prises contre son pays pour son rôle aux côtés du M23. Il s'est montré particulièrement virulent contre la Belgique, vu comme le fer de lance des sanctions internationales. Pour donc son premier meeting depuis sa réélection en juillet dernier, le président rwandais est également revenu sur les discussions en cours au niveau régional. Dites discussions qui, nous le disions, vont dans le bon sens, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Et le prochain rendez-vous ministériel de la SADC et de l'EAC est lui, est prévu ce lundi à Harare. Sur le plan humanitaire, cette fois, après 2 mois d'intervention d'urgence dans l'est de la République démocratique du Congo, un médecin sans frontières annonce mettre fin à son soutien à l'hôpital général de Virunga à Goma. À compter du 31 mars prochain, MSF se retire, estimant que les équipes locales peuvent désormais reprendre en charge les blessés. Anthony Kergossian est coordinateur terrain d'urgence pour MSF en Belgique. Il revient sur le travail de l'ONG dans l'Est congolais.
Un des premiers axes pour nous, c'était évidemment d'appuyer la prise en charge des blessés de guerre. Quand il y a des afflux massifs de blessés et qu'on fait de la chirurgie de guerre, on a besoin de sang. Et il y avait une pénurie, en tout cas les réserves n'étaient pas au niveau de la situation. Donc on a aussi engagé cet appui qui, sur 2 semaines, nous a permis de produire 1500 poches de sang, qui d'ailleurs n'étaient pas destinées uniquement à l'hôpital général de référence du Virunga, mais aussi à d'autres hôpitaux. Aujourd'hui, le nombre de blessés par balle a fortement diminué et qu'en plus, les équipes chirurgicales de l'hôpital ont une capacité à prendre le relais de manière durable. Donc il nous paraît logique aujourd'hui de nous désengager pour pouvoir réallouer nos ressources ailleurs. Il y a le prisme des blessés de guerre et il ne faut pas négliger non plus ces populations qui retournent dans leur lieu d'origine et qui ont elles-mêmes besoin d'accéder à des soins de santé primaire. Et sans oublier aussi la question des maladies à potentiel épidémique. Si demain il devait y avoir un nouvel épisode dans la situation actuelle, évidemment MSF peut considérer à nouveau une intervention.
À des propos recueillis au micro RFI de Christina Okello. Une fois n'est pas coutume, la réaction hier des autorités du Faso après la publication d'un rapport d'Human Rights Watch. L'ONG appelait la junte au pouvoir à enquêter de manière impartiale sur les exactions de civils qui ont endeuillé en début de semaine la région de Solenzo. Des vidéos d'une rare violence circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes armés au milieu de cadavres qui jonchent le sol. Ces exactions sont donc imputées à des membres des VDP. L'exécutif parle, lui, d'une vaste campagne de désinformation pour faire peur aux populations. Retour sur le communiqué burkinabé avec Paul Lorgerie.
Près d'une semaine après les faits, les informations en provenance de la région de Solenzo restent parcellaires. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Ce pourquoi Ilaria Allegrozzi, chercheuse au sein de Human Rights Watch, s'est attelée à la tâche.
Nous avons dénombré au moins 58 corps dans les vidéos, ce qui a une sous-estimation car certains corps étaient empilés les uns sur les autres, donc c'était difficile de les compter.
D'après des témoins et l'analyse de 11 vidéos, l'ONG de défense des droits humains a conclu qu'une communauté en particulier était visée.
La plupart des victimes qui apparaissent dans ces vidéos semblent appartenir à une communauté spécifique, la communauté Peul. Les propos tenus par les individus armés qui filment leurs propres exactions vont bien au-delà du discours d'haine.
Une vaste campagne de désinformation pour discréditer nos vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations. S'est défendu le gouvernement burkinabé dans un communiqué diffusé hier. La version officielle explique que lors d'une riposte opérée à la suite d'une attaque djihadiste, les volontaires pour la défense de la patrie appuyés par les forces de sécurité ont, je cite, « découvert des familles composées de femmes, d'enfants et de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d'utiliser comme bouclier humain ». Fin de citation. Une réponse qui ne fournit aucun élément de preuve pour démentir le contenu des vidéos analysées, regrette la chercheuse.
Indignation aussi au Mali. Des experts des Nations Unies se sont scandalisés vendredi du meurtre le 2 janvier dernier d'au moins 10 personnes dans le secteur de Dioura au centre du pays. Selon le communiqué, les experts accusent les forces armées maliennes et des éléments de Wagner d'avoir tué 6 hommes, 3 femmes et 1 enfant alors qu'ils revenaient du camp de Mbera en Mauritanie. L'armée nigérienne affirme de son côté avoir secouru 50 migrants en détresse. Ils étaient dans le désert. Parmi eux, 20 femmes et 12 enfants. Ils ont donc été retrouvés dans la zone nigérienne de Djado, à environ 200 km de la frontière libyenne. Au Bénin, les pro-talons applaudissent alors que les opposants du chef de l'État parlent d'un leurre. La récente interview de Patrice Talon chez nos confrères de Jeune Afrique fait en tout cas beaucoup réagir. Si le président béninois a répété qu'il ne serait pas candidat à sa réélection en 2026, depuis jeudi, l'opinion publique et la classe politique se déchaînent sur les réseaux sociaux. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
L'annonce de son départ en 2026 lui vaut des félicitations de son camp. D'ailleurs, le président n'a jamais parlé de troisième mandat, rappelle le parti du Rassemblement national. Patrice Talon a un code d'honneur, dit un autre de ses soutiens. Loin d'être soulagé, ses opposants doutent toujours de sa parole. Si quelqu'un croit à le président Talon, c'est son problème, épingle le leader du parti Nouvelle Force Nationale. Le verbe Talon est un leurre, pointe Candide Azanaï, un allié historique devenu son plus farouche opposant. Un membre de la société civile dit prendre acte de la déclaration, mais exige une élection présidentielle ouverte qui se déroule dans les meilleures conditions. Au sujet de Olivier Bocor, son ami et frère devenu un monstre selon le président, un internaute estime que ce qui est arrivé est la faute à Patrice Talon qui lui a confié les services de renseignement. Un autre internaute qui doute de cette tentative de coup d'État affirme que ce n'est pas en culpabilisant qu'on arrive à convaincre. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Cameroun, cela fait désormais 2 semaines que des dizaines d'églises sont fermées. À Yaoundé notamment, les autorités ont décidé de sévir contre ces églises qui sont accusées de fonctionner sans autorisation. Ces lieux de culte sont aussi pointés du doigt. Certains y voient des sources de nuisances sonores. Alors, ces fermetures ne sont évidemment pas du goût des fidèles et des acteurs du milieu religieux qu'a rencontré Polycarpe Esomba.
Didier Ahanda est un révérend pasteur bien connu au quartier Mimbouman. Il y tient une église, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Depuis une dizaine de jours, son activité est à l'arrêt et pour cause.
J'étais à l'église, après je suis sorti et puis en revenant, j'ai trouvé que on est venu sceller l'église. Mon église est complètement fermée. Les chrétiens sont à la maison. Moi-même, je suis à la maison.
Plusieurs dizaines d'autres églises dites des réveils ont connu le même sort. Des églises fermées à la suite d'une mesure d'assainissement de ce secteur, décidé par le gouvernement au grand désarroi des pasteurs.
L'État s'attaque à l'Église comme si c'était l'Église qui était la mère des problèmes qui se passent au Cameroun. L'Église n'a rien à y voir. D'ailleurs, en face de mon Église, il y a une grande poubelle qui bouffe le goudron. Moi, je ne sais pas si c'est cette poubelle ou moi. Quel est le problème?
L'État, en lançant sa campagne, a dénoncé des églises qui fonctionnent dans la clandestinité, en marge de tout contrôle réglementaire et qui génèrent nuisances et autres troubles dans les quartiers. Des arguments que conteste de Lorango, évêque de la native église baptiste du Cameroun.
C'est très difficile de voir des gens écrire contre un bar, auprès du sous-préfet. Mais les gens écrivent contre des églises tous les jours. Pourquoi? Oh, le bar fait des bruits, l'église fait également des bruits. Mais pourquoi les gens se plaignent trop des églises? Qu'on laisse un peu les pasteurs tranquilles.
L'opération engagée dans l'arrondissement de Yaoundé 4e a déjà vu près de 300 églises fermées. Pour les Carpesomba Yaoundé, RFI.
Le plus grand aéroport d'Afrique, c'est ainsi que les autorités éthiopiennes qualifient le projet d'un nouvel hub qui doit voir le jour en banlieue d'Addis Abeba. Ethiopian Airlines va s'allier avec la Banque africaine de développement pour permettre donc la création d'un nouvel aéroport international à près de 8 milliards de dollars. Le projet portera la capacité annuelle de transport de passagers de 17 millions à plus de 60 millions. À Madagascar, la polémique a pris de l'ampleur cette semaine. Une 50aine de personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire, et ce dans un restaurant de Majenga dans l'ouest du pays. Parmi les malades, le président Hans Radzoel et sa femme. Le ministère du Tourisme a donc décidé tout bonnement de fermer l'établissement. Une décision qui a provoqué un tollé, Pauline Le Troquier.
Hans Radzoel a d'abord révélé publiquement ce lundi se remettre des suites d'une intoxication alimentaire. 48 heures plus tard, le couperet tombe pour l'hôtel Coco Beach, lieu de l'incident à Majenga, sommé par le gouvernement de fermer sur le champ son restaurant. Le député Christian Afakand est élu d'opposition de cette ville côtière. Il pointe une décision abusive et partiale, car la commune se souvient d'un autre scandale sanitaire de grande ampleur. Fin 2023, deux responsables de la région ont autorisé l'introduction de plusieurs tonnes de riz avarié reconditionnés sur le marché local. Aucune condamnation connue n'a été prononcée à leur encontre.
Nous avons vu qu'il y a une débat des mesures à propos de cette décision. Donc il faut qu'il y a une tolérance, peut-être un avertissement comme ça, mais la fermeture, c'est trop. On trouve, c'est trop.
En ligne, les uns s'insurgent, les autres relativisent un incident jugé banal pour une population confrontée aux difficultés de conservation des aliments liés au délestage en série. La sénatrice du pouvoir, la latine Rakoutoun Jazaf, elle-même présente et victime lors du déjeuner du 8 mars, défend une mesure de santé publique.
C'était quand même des dizaines de personnes qui ont été intoxiquées, donc je ne comprends vraiment pas en quoi ce serait un abus de pouvoir. voilà, c'est vraiment une mesure parfaitement normale dans des cas pareils.
La sanction est vécue comme un coup dur pour cette ville prisée des touristes nationaux, dont l'économie dépend de toute la chaîne de valeur, de l'hôtellerie et de la restauration. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Je vous le disais en titre, le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage lors des matchs de football fait son chemin en Afrique. Utilisé pour la première fois lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, la VAR devrait donc bientôt faire son apparition sur d'autres compétitions du continent. Encore faut-il disposer des personnes compétentes pour l'utiliser. Voilà pourquoi des arbitres et des techniciens vidéo issus de 7 pays ouest-africains sont actuellement formés près d'Abidjan. Notre correspondant Molamine Sissavane a assisté au premier cours.
Assisté d'un interprète, un moniteur CAF dispense le cours inaugural sur les instructions théoriques de la VAR en face de participants venus du Nigeria, du Togo, du Ghana et du Niger, entre autres. Alain Nabil, formateur.
Pour nous, c'est vraiment en fait un renforcement des capacités de tous les arbitres dans les différentes zones. Et notre but, justement, c'est que chaque technicien arbitre au niveau de sa zone respective puisse devenir de très bons opérateurs pour la VAR.
They will be good operators for the VAR.
C'est l'ambition de Marcus Baguidi, à la fois arbitre, producteur vidéo et opérateur de drone au Bénin.
Le Bénin a déjà fait un pas la saison passée en installant la VAR pour une journée. Bientôt, je suis sûr que le Bénin aussi va entrer dans la danse. Et si l'UFOAB ou bien la CAF nous fait appel, après la formation, là, nous serons disponibles pour servir le football.
C'est pour l'expansion progressive de la VAR que Philippe Thierry a initié cette formation. Il est le directeur exécutif de l'UFOAB.
La VAR est déjà dans le football africain. Et cette fois-ci, on les rapproche maintenant des fédérations. Mon objectif, c'est vraiment, après cette formation, d'utiliser la VAR dans un des tournois de l'UFOAB.
D'ores et déjà, la VAR pourrait être utilisée lors de la CAN U20 en mai prochain en Côte d'Ivoire. Molamine Sissavane, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est midi 46, comme en temps universel. Tout de suite, la suite d'Afrique Midi avec vos chroniques du dimanche.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Et au programme, la santé à portée de main avec l'application camerounaise Waspito. Frédéric Gara nous présente cette appli de consultation médicale à distance. C'est dans quelques instants dans l'Afrique en marche. À suivre également votre rendez-vous avec votre chronique littéraire du dimanche. Tirtankar Chanda donne la parole au romancier camerounais Max Lobé, et ce à l'occasion du salon du livre africain qui referme ses portes aujourd'hui à Paris. Et puis, dans 10 minutes, la mode ivoirienne sera à l'honneur dans 100% son création.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche au Cameroun ce dimanche. Focus sur une start-up camerounaise, Waspito, qui présentait en mai dernier son application à Paris au salon Vivatech. L'appli de consultation médicale à distance permet de résoudre les questions d'accès aux soins dans les zones les moins favorisées et les moins médicalisées du Cameroun. À la découverte de Waspito, c'est avec Frédéric Gara.
Il y a quelques années, j'ai perdu mon père qui voulait que je sois médecin. Il a eu une crise cardiaque. On le transportait depuis une ville du Cameroun, Koumba. Il n'y avait pas de cardiologue là-bas. Et on le transportait vers Boya, là où il y avait un cardiologue. Et il est mort en chemin.
Faute d'accès rapide à un cardiologue, le père de Jean Lobé-Lobé est décédé il y a 6 ans. De ce drame personnel est née une idée, celle de créer une application de consultation médicale à distance, Waspito. Téléchargeable sur smartphone, cette appli permet aux patients, même éloignés des grandes villes, de trouver rapidement un médecin généraliste ou bien un spécialiste disponible.
Donc, les premiers pas étaient avec mes économies propres. J'ai vendu ma maison, pratiquement tous mes biens. C'était pas facile avec madame, pour la convaincre pour prendre ce risque. Moi-même, j'ai utilisé 2 ans pour m'apprendre à coder en PHP. Je suis allé sur YouTube apprendre à coder. Et il fallait rassembler une équipe.
En 2018, à force de courage et de volonté, Jean Lobé-Lobé réussit à monter sa start-up jusqu'à réunir la somme de 6 millions de dollars, 3,5 milliards de francs CFA, pour concevoir et lancer son application. D'entreprise unipersonnelle, Waspito est devenue une société de 40 salariés répartis sur Douala, Yaoundé et également Abidjan.
70% de fois, vous allez à l'hôpital, c'est juste une conversation entre vous et le médecin. Il ne vous touche pas. Donc, la première chose qu'on utilise pour essayer d'améliorer l'accès aux soins, c'est juste de commencer par l'appel vidéo dans l'application. Donc, c'est même si on est en bourse, vous avez accès à 1200 médecins sur l'application Waspito. Mais si je veux faire une consultation aujourd'hui, je clique sur consulte et je vais voir les médecins généralistes ou spécialistes. Par exemple, on allait cliquer ici cardiologue. Dès que je clique ici, je paye par Orange Money. Et puis, vous choisissez audio ou vidéo. On encourage tous les utilisateurs de noter les médecins après chaque consultation.
4 000 francs CFA pour un généraliste ou 10 000 pour un spécialiste. Le tarif de la consultation à distance est sensiblement le même qu'en présentiel, mais il permet d'économiser le coût du transport et de gagner en rapidité. Alexis Tazinia, médecin généraliste à Douala, fait partie de ceux qui ont adopté l'application.
Je suis à Douala, mais je consulte les malades dans les différentes zones reculées, les différentes villes aussi. L'accès à Internet grandit chaque jour. Donc, médecine 3.0, comme on le dit, c'est très important pour toute personne dans l'Afrique.
Dans un pays, le Cameroun, aux 29 millions d'habitants, l'OMS recense un médecin pour 8 à 10 000 Camerounais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la couverture minimale préconisée est de 3 médecins pour 1000 habitants. L'application de Jean Lobé-Lobé permet donc de limiter les effets des déserts médicaux en Afrique.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche avec Frédéric Garas et tous les dimanches à la radio sur RFI et bien sûr quand vous le voulez sur notre site et notre application. RFI à 13h50 ici à Paris dans 10 minutes, votre prochain journal consacré à l'actualité internationale. Mais avant ça, un principal point sur les titres avec cette invective entre Washington et Téhéran. Après les frappes américaines contre les Houthis du Yémen, le bilan au moins 31 morts. Donald Trump somme lui l'Iran de cesser son soutien aux rebelles. Téhéran promet de son côté des ripostes à toute attaque. Voice America s'envoie l'administration Trump mais les médias publics étrangers en sourdine. Considérés comme des éléments inutiles de la bureaucratie fédérale, le personnel est donc mis en congé. Un cadeau aux ennemis de l'Amérique, selon le président de la radio Free Europe, également concerné. À la une également de l'actualité, la France, avec le Premier ministre qui dit non à un retour de la retraite à 62 ans. Le contexte international ne le permet pas, précise François Bayrou. Et puis du sport, d'abord avec du rugby. Le 15 de France, sur le toit du monde, les Bleus sont vainqueurs du tournoi des 6 nations de rugby. Ils ont gagné hier contre l'Écosse. Et puis du football et cette belle affiche ce soir, le classique entre le PSG et Marseille. Comme tous les dimanches dans Afrique Midi, voilà le moment de se plonger dans la littérature africaine. Avec vous, Tirthankar Chanda. Et ce midi, Tirthankar, à l'occasion du Salon du Livre Africain qui se referme aujourd'hui à Paris, vous donnez la parole au romancier camerounais Max Lobé.
À bientôt 40 ans, le Camerounais Max Lobé est sans doute le plus genevois des écrivains africains. Débarqué au pays de Guillaume Tell et de Ramuse, il y a plus de 2 décennies, il vit aujourd'hui à Genève. Il a fait des études d'histoire et d'administration publique avant de s'engager dans l'écriture. Son déclic date de 2009, lorsque sa première nouvelle a été couronnée par le prestigieux prix de la Sorge. Le texte fut même lu en public. C'est là que j'ai réalisé que mes mots pouvaient toucher, se souvient le romancier. Depuis, il n'a plus cessé d'écrire, gagnant en maturité. 7 romans plus tard, chaque fois qu'il prend la parole pour dire pourquoi il écrit, il est envahi par un flot d'émotions qui étrangle sa voix. Écoutez plutôt Max Lobé.
Oh là là, pourquoi j'écris? Parce qu'il y a une flamme au-dedans de moi. Rien ne peut l'éteindre, peut-être sauf la mort. On laisse quelque chose qui va s'inscrire dans un cadre plus grand que nous encore. Je pense que c'est ça qui me pousse à écrire.
À quelque chose de plus grand que nous, de quoi nous parle ici Max Lobé?
C'est une allusion à l'histoire avec un grand H que Lobé mêle avec brio, avec la petite histoire singulière de nos vies, de nos malheurs, de nos quêtes. Toutes ces thématiques sont au cœur de La Danse des Pères, le nouveau roman de Lobé, son 7e lecture.
La nuit est tombée depuis un moment sur Genève. La bise est douce. J'essaye de me connecter au wifi de ma mémoire qui me projette loin. Lorsque soudain me parviennent les couleurs, les senteurs, les voix de mon enfance là-bas à Bidi. Surtout celles de mon père, Koundedi Kwedje, le lion guerrier. Ses éclats de rire gras, sa gouaille de conteur, son timbre grinçant et cette nostalgie mûre qui pendouille à ses cils lorsqu'il évoque l'histoire du pays.
Ainsi s'ouvre La Danse des Pères. C'est un roman à la fois politique et personnel, voire autofictionnel, mais raconté à travers la voix d'un certain Benjamin Muller, originaire du Cameroun et genevois, tout comme l'auteur. Danseur de profession, ce double de l'auteur se souvient de sa famille au Cameroun et surtout de son père, des pas de Funky Makossa que celui-ci esquissait parfois lors des réunions de famille où il leur contait l'histoire de la résistance camerounaise contre ce qu'il appelle, non sans mépris, la chose blanche. Dans l'esprit du narrateur, le souvenir de ce père disparu il y a 15 ans reste aussi étroitement associé à son rejet brutal de son fils à cause de son homosexualité affichée. « Celui-là n'est pas mon fils », répétait-il. La résistance contre l'impérialisme occidental était leur seul terrain d'entente. Max Lobé.
C'est un roman opéra. D'ailleurs, l'opéra m'a beaucoup inspiré. La thématique de cet opéra, c'est la grande liberté. En 2025, en octobre, nous aurons des élections. Le dernier chapitre, d'ailleurs, s'intitule « 2025 ». Mon écriture est toujours politique, même dans l'opéra, même dans le classique. Pour parler de politique de manière apaisée, je convoque la danse, je convoque les ancêtres, leurs esprits, par des récits de naissance et de renaissance.
Alors on peut dire, Tirthankar, que la danse des pères est un récit de naissance et de renaissance ?
Comme le sont la plupart des romans de cet auteur. Ici, il s'agit de la renaissance du Cameroun, mais aussi de celle de Max alias Benjamin, dans un pays qui renaît de ses cendres et où le narrateur espère que la liberté politique rimera avec la liberté d'aimer et d'être soi-même. Telles sont les pistes creusées par Max Lobé dans son nouveau roman, un septième roman aussi poignant que maîtrisé sous la plume du plus camerounais des écrivains genevois.
Max Lobé, dont le dernier roman, La danse des pères, est à retrouver aux éditions Zoé. Merci Tirthankar Chanda. À 100% création consacrée à la mode africaine ce dimanche. Ibrahim Fernandez, vous connaissez peut-être la marque ivoirienne de vêtements sur mesure et de prêt-à-porter. Eh bien, ce midi, nous allons à la rencontre de son créateur avec Maria Afonso.
Moi, je vis vraiment de mon travail, c'est-à-dire ma mode, c'est vraiment moi.
Ibrahim Fernandez, fondateur de la marque éponyme.
Au départ, la marque s'appelait Zango en Côte d'Ivoire, ça veut dire bien habillé. Quand j'ai décidé d'être Ibrahim Fernandez, mon équipe m'a dit, tu seras obligé d'être au devant de la scène maintenant. Et moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Je pense que c'est de là même que, par rapport à ma personnalité, une sorte d'attachement avec ma communauté, ça a permis à Mac aille dans une autre dimension.
Ibrahim Fernandez est né à Abidjan. Après son cursus en gestion commerciale, il poursuit son parcours d'autodidacte dans la mode. Bien qu'il n'ait pas eu les moyens de suivre une école de mode, il a développé sa passion pour la création de vêtements. D'abord en créant ses propres tenues, ce qui a ensuite évolué vers la création pour une clientèle plus large. Mais l'essentiel pour ce créateur, c'est de rester authentique. Le processus créatif d'Ibrahim Fernandez est profondément lié aux émotions et à la musique.
Je commence toujours par une émotion. Je pense que ça se ressent dans ce que je propose. Toutes mes collections ont une histoire avec la musique. Après, je tombe amoureux d'une matière aussi. Et c'est vraiment juste après ces deux-là que je pose un croquis. C'est jamais l'inverse. Ma plus grande satisfaction, c'est quand on arrive à percevoir ce que j'ai voulu transmettre par le vêtement.
Créateur de mode engagé, Ibrahim Fernandez met en avant des thèmes forts dans ses collections, tels que le féminisme. Il cherche à transmettre des émotions à travers ses créations, ce qui est perceptible lors de ses défilés, et notamment sa collection Transition Tradition.
C'est vraiment l'une de mes collections pour moi les plus fortes, très engagée, une collection féministe. J'ai organisé un défilé pour les 10 ans de la marque et vraiment, quand on est arrivé à ce tableau, avant il y avait ce qu'on appelait les interludes, donc les gens ont pu comprendre de quoi il s'agissait et donc il y avait des gens qui étaient émus, qui pleuraient après le défilé. Beaucoup sont venus vers moi. On me dit la collection est très forte, ils ont compris le sens, et que ça soit la couleur, le noir, que ce soit les matériaux, que ça soit les messages, le visuel qui concernait la collection, la musique, tout était pensé pour partager et faire comprendre l'émotion.
Retrouvez l'univers d'Ibrahim Fernandez sur RFI.fr chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
À 100% création et Maria Afonso pour refermer cette édition d'Afrique Midi, réalisée aujourd'hui par Benoît Raymond. Karine Franck était à la rédaction en chef avec Cécile Périllard. Le retour de l'actualité africaine sur RFI, c'est à 18h temps universel. Mais avant ça, dans un peu plus de 2 minutes, comme toutes les heures sur la radio du monde, le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous attendent 30 minutes d'information en full day, et en Afrique lusophone, vous avez rendez-vous avec cette fois une demi-heure d'information en portugais. Restez bien à l'écoute de RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
lutter contre les insomnies sans médicaments.
Mardi,
prévention, dépistage, traitement des hépatites, émission présentée par Laurence Garcia.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on évoque la philosophie de Nietzsche, si, avec le parrain de la K-pop, le coréen G-Dragon. On salue la mémoire d'un virtuose du groove, l'américain Roy Ayers, et puis on fait l'anatomie du hook, une arme musicale d'attention massive. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde, c'est tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.